Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel. Au micro Yves Bastide pour l'émission Si ma mémoire est bonne. Je voudrais aujourd'hui parler d'un cinéaste que les cinéphiles placent au top niveau et dont certains films ont eu un succès considérable. Je veux parler d'Alfred Hitchcock.
Il y a en chacun de nous des recoins de noirceur, de violence et d'horreur. Moi, je me cache dans un coin avec ma caméra et j'observe.
Vous êtes le réalisateur le plus célèbre de l'histoire du cinéma.
Ce roman-là, Psychose, est divertissant en diable. Description explicite de pure violence.
Ça a l'air affreux.
On parle d'un type qui a été recherché sa mère 6 pieds sous terre.
Et votre femme, qu'en dit-elle?
Et quelques instants plus tard, ce même couteau mit fin à son hurlement, ainsi qu'à sa vie. C'est charmant. Doris Day devrait en faire une comédie musicale.
Votre film ne sortira dans aucune salle des États-Unis.
Sachez que Monsieur Hitchcock fera ce film. La question est, avec ou sans vous?
Nous devrons nous jeter à l'eau sans eux, ma chère.
Comment allez-vous tourner la scène de la douche? C'est juste que, enfin, au-dessus de la ceinture, je ne suis pas exactement une garçonne.
N'attendez pas d'être à mi-parcours. Tu es là au bout de 30 minutes.
Comme vous y allez. Est-ce que je ne commets pas une grave erreur?
Tout va bien se passer.
Une
J'ai un mari obsédé par le meurtre.
La moindre des choses serait que tu me soutiennes à 100%.
Je suis ta femme et je supporte ces gens qui me traitent comme si j'étais invisible. Parce que tout ce qu'ils distinguent, c'est le seul et unique, le grand Alfred Hitchcock. Et comment ça finit?
J'ai promis à ma mère que je ne dirais rien.
Je vais commencer par vous lire une citation d'un discours de Alfred Hitchcock. Ici, à Hollywood, nous pouvons tout faire sur l'écran. Mais nos pouvoirs sont dérisoires en comparaison de ce qui peut se passer dans votre esprit. Par exemple, combien de fois avez-vous désiré assassiner quelqu'un? Je veux dire en pensée. En quelques lignes, tout Hitchcock est là. Mais reprenons l'histoire par son commencement. Alfred Hitchcock est né en 1899 à Londres, le 13 août. Le lendemain, même évidemment, il ne le savait pas, est née une mademoiselle Alma Reville, qui n'allait, quelques années plus tard, devenir Madame Hitchcock. Hitchcock est né dans une famille catholique, ses grands-parents étaient irlandais. Il était l'élève des jésuites et il a très souvent raconté une histoire qui lui serait arrivée lorsqu'il était petit. Voici l'histoire. Alors que j'avais à peine 6 ans, je fis quelque chose que mon père considéra comme répréhensible. Il m'envoya au commissariat de police du coin avec un mot. Le policier de service le lut, puis m'enferma dans une cellule de la prison pendant 5 minutes en disant « Voilà ce qu'on fait aux méchants garçons. » Je n'ai depuis lors reculé devant rien pour éviter l'arrestation et l'emprisonnement. Est-ce que cette histoire est vraie? Hitchcock l'a répété plusieurs fois. Bon, avec Hitchcock, on n'est jamais vraiment sûr de rien. Ce qui se passe dans sa vie, ses parents sont commerçants. Son père meurt en 1914, donc le jeune Alfred a 15 ans. Et il faut très vite qu'il gagne sa vie. Il va la gagner dans la publicité. Et surtout, il va très vite collaborer à la confection de films. On est à l'époque du cinéma muet. Il y a dans les films muets une chose très importante, ce sont les intertitres. Vous savez, entre les images, les placards qui vous disent ce que disent les personnages, etc. Et Hitchcock, donc, va s'initier au cinéma à travers ces intertitres. En 1916, il est refusé dans l'armée, l'Angleterre est en pleine guerre. Est-il refusé parce qu'il est soutien de famille? Est-il refusé parce que déjà, il a des problèmes énormes de surpoids? Toujours est-il que, après quelques petits films, en 1926, il va tourner son premier vrai film, enfin celui qui a fait date dans sa carrière, qui s'appelle The Lodger. Et déjà, il va jouer sur l'ambiguïté. L'Angleterre est encore sous le choc de l'histoire de Jack l'Éventreur. Et l'histoire raconte comment un pensionnaire d'une modeste pension de famille est pris pour Jack l'Éventreur. Signalons que la même année, il épouse Alma Reville, qui est née donc un jour après lui, et ils vont rester mariés jusqu'à la fin de leur vie. Et petit à petit, Hitchcock s'impose au cinéma jusqu'en 1939, où il tourne son dernier film anglais, La taverne de l'Irlandais. Mais, entre-temps, il a mis au point quelques techniques dont on ne peut éviter de parler lorsqu'on évoque Alfred Hitchcock. Et surtout, ce que lui appelait le MacGuffin. Qu'est-ce que ça veut dire, le MacGuffin? Ça ne veut strictement rien dire. Alors, je vous explique en gros. C'est dans un film d'Hitchcock, vous avez une histoire prétexte qui va lui servir à faire son film et dont il se moque complètement. C'est ce qu'on appelle le MacGuffin. Je vais prendre un exemple pour ceux d'entre vous qui ont vu le film Psychose. Le film Psychose commence comment ? Une jeune secrétaire dérobe l'argent d'un client, s'enfuit en voiture avec cet argent. Ça, c'est le point de départ. Et petit à petit, enfin, en réalité, assez vite, on se rend compte que le metteur en scène se moque complètement de cette histoire d'argent. Au point que le film va se dérouler, va prendre une autre dimension, et à la fin, on n'est même pas sûr que la police ait récupéré l'argent du vol qui en fait se trouvait dans un coffre de voiture au passage à côté d'un cadavre. Mais ça, c'est l'humour hitchcockien. Donc le MacGuffin, alors voici ce que Hitchcock racontait à propos de ce MacGuffin. Deux hommes ont pris place à bord d'un train qui vient de quitter Londres à destination de l'Écosse. L'un d'eux a hissé sur le porte-bagages un gros colis d'aspect insolite. Qu'y a-t-il dans ce paquet ? Interroge son compagnon de voyage. Oh, c'est un MacGuffin. Un MacGuffin, qu'est-ce que c'est ? Un appareil qui sert à piéger les pumas dans les monts d'Écosse. Mais il n'y a pas de pumas dans les monts d'Écosse. Dans ce cas, ça ne doit pas être un MacGuffin. Toujours est-il que Hitchcock restera fidèle à cette méthode jusqu'à la fin de sa vie. À présent, une autre chose que Hitchcock met en place dès sa période anglaise avant de partir pour Hollywood et qu'il affirmera à plusieurs reprises, il dit détester les acteurs. Pour moi, les acteurs, c'est du bétail. On raconte à ce propos d'ailleurs qu'une vedette de l'écran, Madeleine Carroll, pour se venger de Hitchcock, une nuit avait introduit sur les studios, exactement dans les décors du film qu'elle était en train de tourner, avait introduit trois vaches en disant à Hitchcock, eh bien voilà, maintenant, faites-les jouer. L'histoire ne dit pas ce qu'en ont pensé les vaches, ni si elles ont regagné leur verdure originelle. Toujours est-il que Hitchcock a toujours dit qu'il détestait les acteurs. En fait, Mais Hitchcock n'en est plus un paradoxe près. En fait, on se rend compte, en regardant la liste de ses films, qu'il a fait tourner les plus grands acteurs, que certains les a fait tourner plusieurs fois, et que finalement, il n'était peut-être pas aussi allergique aux acteurs qu'il a bien voulu le dire.
Thank you.
parmi les acteurs, plutôt, on va commencer par les actrices, qu'il a fait tourner. On a d'abord, au début, dans sa période, début de sa période hollywoodienne, Ingrid Bergman, avec qui il a tourné 3 films. Grace Kelly. Alors là, Grace Kelly, c'était une grande histoire d'amitié entre Hitchcock et Grace Kelly. Si actuellement, on se souvient de Grace Kelly en tant que comédienne, je ne parle pas de la princesse de Monaco, mais en tant que comédienne, c'est bien grâce à 3 films qu'elle a tournés avec Hitchcock, Le crime était presque parfait, Fenêtre sur cour et La main au collet, en 1955. D'ailleurs, dans La main au collet, au passage, il y a quelque chose à quoi on ne peut s'empêcher de penser quand on revoit le film. À la fin du film, ça se passe sur la Côte d'Azur, et à la fin du film, Grace Kelly, qui est plus ou moins gay, disons, plus ou moins éméché, conduit une voiture à toute allure. À ses côtés, il y a Cary Grant. Et Cary Grant n'emmène pas large. Et cette scène de conduite de voiture a été filmée sur la corniche au-dessus de Monaco, là où, 3 décennies plus tard, Grace Kelly, devenue Grace de Monaco, allait trouver la mort. Parmi les autres comédiennes, il y a aussi Kim Novak, Eva Marie Saint, Janet Leigh, et la dernière, Tippi Hedren. Ah, j'allais oublier, Marlène Dietrich aussi, le temps d'un film. Doris Day. Peut-être aurez-vous remarqué que toutes ces actrices étaient blondes. Hitchcock avait une adoration pour les blondes. Il trouvait que les blondes, sous leur apparence de bonne éducation, de réserve, etc., étaient capables de s'enflammer brusquement et d'avoir des réactions imprévisibles. Revenons-en aux acteurs. Côté acteurs aussi, il y a quand même 2 acteurs avec qui Hitchcock a tourné plusieurs films. Il y a Cary Grant pour 4 films et James Stewart pour 4 films également. Et 4 films qui comptent parmi les plus importants d'Hitchcock, notamment pour Cary Grant, La main au collet, pour James Stewart, Fenêtre sur cour, ou L'homme qui en savait trop, ou Sueur froide. Il a également fait tourner des comédiens comme Gregory Peck, comme Henry Fonda, comme Montgomery Clift, Anthony Perkins, Paul Newman, Sean Connery. Même si Hitchcock, comme il affirmait, n'aimait pas les acteurs et les considérait comme du bétail, il savait quand même faire travailler son bétail. Au passage, une chose que Hitchcock a mise au point dès sa période anglaise, c'est le fait que son film était entièrement construit, calibré, réglé au millimètre près. Et lorsque les acteurs commençaient à tourner, en réalité, pour Hitchcock, ça n'avait aucun intérêt puisqu'il savait ce qui allait se passer. Et une chose qui m'a toujours étonné, et plusieurs acteurs l'ont raconté, il arrivait que Hitchcock, pendant les prises de vue, s'endorme. Des vedettes, par exemple, des comédiens, voulaient savoir, après avoir tourné, ce qu'en pensait Hitchcock. Ils se rendaient compte que Alfred Hitchcock était tout simplement en train de dormir et n'avait pas suivi ce qui s'était passé. Certains comédiens, d'ailleurs, l'ont très mal pris. Notamment Paul Newman, avec qui il a tourné Leto à la fin de sa vie, qui n'a pas du tout apprécié cette façon assez désinvolte de considérer les acteurs. En 1939, donc, Hitchcock tourne son dernier film anglais, La taverne de l'Irlandais, et il va partir pour Hollywood, où il va faire une carrière exceptionnelle et exceptionnellement longue.
Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense.
Someone inside me, she says I must die. Scotty, don't let me go.
A beautiful girl haunted by the desperate, unexplainable urge to destroy herself. A man possessed by the paralyzing vertigo that made him afraid of high places.
Easy now.
I know. Ah, it's a cinch. Here, I look up. I look down. I look up. I look...
What was the strange attraction that brought these two together in spite of the dark forces that tore them apart? The specter from the past that drew her to the ancient headstone in the mission graveyard. The compulsion that drove her relentlessly to the point of no return. The story of a love so powerful it broke down all barriers between past and present, between life and death, between the golden girl in the dark tower and the tawdry redhead that he tried to remake in her image.
If I let you change me, will that do it? If I do what you tell me, will you love me?
Yes.
All right, then I'll do it. Then I don't care anymore about me.
We'll be right back.
Cela dit, ce qu'on appelle la période anglaise d'Hitchcock lui a permis de mettre au point tout un tas de choses. Je vous ai parlé tout à l'heure du MacGuffin. Une chose que j'ai oublié de rappeler, mais que ceux qui apprécient les films d'Hitchcock ont bien en tête. Dès le début de ces films, il s'arrange pour apparaître une fois au cours du film. Attention, il faut parfois être très attentif pour repérer Hitchcock. C'est une silhouette, ça peut être quelqu'un qui téléphone dans une cabine, ça peut être quelqu'un qui est assis dans un autobus, ça peut être quelqu'un qui traverse la rue. Mais dans tous ces films, on voit la silhouette d'Alfred Hitchcock. Et ça annonce déjà ce qui va porter à son sommet dans sa période américaine, c'est son art de la publicité. À ma connaissance, Alfred Hitchcock est le seul metteur en scène dont on a mis les portraits sur les affiches des films. Quand vous imaginez une affiche de cinéma, en général, vous voyez en gros les noms des vedettes, vous voyez en plus ou moins stylisé les vedettes. Là, plusieurs fois, on a eu droit à la silhouette d'Alfred Hitchcock. Il faut dire que c'est lui-même qui avait pris le soin, puisqu'il avait dessiné les intertitres, il dessinait très bien. Il a fait une silhouette de son visage qui lui a servi de carte de visite pendant des années. Et aussi, pendant sa période anglaise, il va lancer ce qu'on peut appeler des films d'espionnage, qui en fait ne sont pas des films d'espionnage. Je m'explique. Vous avez au départ une histoire d'espion. Personne n'y comprend rien. Surtout pas les gens qui sont dedans. Et à la fin du film, honnêtement, on n'en sait pas plus sur cette histoire d'espionnage. La malice d'Hitchcock, c'est toujours ce MacGuffin. Alors, dans sa période anglaise, il y a eu une première version d'un film qui s'appelle « L'homme qui en savait trop », dont il tournera une autre version. La première version, il y a un acteur anglais qui s'appelle Pierre Freinet, il y a Peter Lorre qui venait d'Allemagne. C'est une histoire d'espionnage. Il y a un autre film qui a eu beaucoup de succès, « Une femme disparaît ». Ça se passe dans un train, il y a une histoire d'espion. Et à la fin, honnêtement, on ne sait plus. D'ailleurs, entre nous, mieux vaut renoncer à comprendre les histoires d'espionnage d'Alfred Hitchcock, sinon vous risquez d'y perdre votre latin et surtout de vous poser des questions sur votre propre capacité de raisonnement. D'ailleurs, ces histoires d'espionnage, on les retrouvera jusqu'à la fin de la carrière d'Hitchcock. Alors, signalons que pendant sa période anglaise, Alfred Hitchcock a une fille avec Alma Reville, une fille qui s'appelle Patricia, et qui tournera dans un de ses films les plus connus, L'Inconnu du Nord Express. Pourquoi est-ce que Hitchcock est parti aux États-Unis en 1939? On le lui a beaucoup reproché. On a dit parce qu'il voulait fuir la guerre. Ça peut être pas aussi simple. Par exemple, on sait qu'en 1944, lorsque les Américains sont pénétrés dans les camps de concentration, des cinéastes ont pris contact avec Alfred Hitchcock en disant comment est-ce qu'on peut montrer ce qu'on a vu dans les camps. Hitchcock leur a donné quelques conseils, ça n'a servi à rien d'ailleurs parce que le film a été interdit par la censure américaine. Mais il ne faut pas oublier que Hitchcock avait fait un peu le tour des studios anglais. Ensuite, vu son physique, vu ce qu'il faisait, il n'aurait jamais pu participer à la guerre. Il avait été refusé en 1916, il aurait été également refusé en 1940. Toujours est-il que lorsqu'il s'embarque avec Alma, sa fille, et Alma, pardon, son épouse, et Patricia, sa fille, il s'apprête à tourner son premier grand succès aux États-Unis. Et ce premier grand succès, c'est Rebecca. Rebecca est un film en noir et blanc, tourné avec un acteur anglais célèbre, Laurence Olivier, avec John Fontaine, et une de ses comédiennes second rôle si importante chez Hitchcock, Judith Anderson. Rebecca, c'est d'après un roman de Daphné du Maurier. Daphné du Maurier, une romancière à succès, que à la fin de sa vie, Hitchcock réutilisera, puisque c'est elle qui a écrit aussi le roman Les Oiseaux. Et Rebecca, c'est une histoire qui se passe dans un château à Manderley. L'héroïne, la seconde épouse de Lord de Winter. Et petit à petit, elle finira par croire que son mari a supprimé sa première femme, Rebecca, pourchassée également par la domestique Judith Anderson, qui était amoureuse de Rebecca et qui la pousse presque au suicide. Évidemment, comme toujours chez Hitchcock, les choses se terminent bien, si on peut dire. Sauf que le château de Manderley va brûler complètement et que la gouvernante va se jeter dans les flammes, c'est elle qui a mis le feu au château, et le couple pourra repartir peut-être, vers des jours meilleurs. C'est le premier film qu'Hitchcock a réalisé aux États-Unis, d'autres à les suivre, nous en parlerons prochainement.
Thank you.